Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ces rencontres autour de l'Inde qui vont se dérouler donc ce soir et demain. Donc au départ, c'était pour faire écho à l'exposition du Centre Pompidou qui s'appelle Paris, Delhi, Bombay, qui se termine lundi soir. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vue, vous avez encore quelques jours. Voilà, donc la BPI avait voulu être présente autour de cette exposition en accueillant à la fois des auteurs de littérature, mais également des traducteurs, des linguistes, des photographes et un cinéaste, voilà, pour donner une vision assez large de ce qu'est l'Inde aujourd'hui. Voilà, et on va commencer par une table ronde autour du sanskrit avec trois spécialistes, donc Alain Porte, Colette Poggi et Michel Hulin. Voilà, que je remercie d'être là. Ils vont se présenter ensuite eux par eux-mêmes. Et puis, je voulais aussi remercier donc Dominique Vitalios, qui nous a aidé dans ce travail de conception de ces rencontres, qui est également une grande spécialiste de la littérature indienne et que je remercie pour cette collaboration. Voilà, je vous souhaite donc de belles journées. Et donc, les auteurs indiens sont arrivés. Ils seront là à 18h30 pour une table ronde. Tous les quatre, la table ronde sera donc en anglais. Vous aurez donc des casques de traduction que vous pourrez prendre au début de la table ronde, avec donc deux interprètes qui vous feront la traduction. Voilà, belle rencontre et merci d'être là.
Si, bon, chacun se présente. Colette.
Bonjour à tous, namasté, comme on dit en Inde. Ce n'est pas très agréable de se présenter, mais je dirais simplement que si je suis là aujourd'hui parmi vous, c'est que une sorte de démentation s'est produite pour l'univers de l'Inde. Tout d'abord, en fait, tout simplement, à peu près au niveau de l'année du bac, je me suis intéressée à la philosophie. Et en lisant certains ouvrages, j'en suis venue à consulter quelques livres sur l'Inde. Et les mots m'ont tout de suite captivée, les mots que j'ai perçus effectivement comme intraduisibles. Et puis aussi le nombre d'ouvrages non traduits. Et cela m'a incité, je ne sais pas où je dois mettre le micro, ici, voilà, m'a incité donc à plonger moi-même dans cet univers. Et j'ai alors eu la chance de suivre un double cursus, un cursus à l'université d'Aix-en-Provence, et puis en même temps avec un professeur indien à Paris qui m'a appris le sanskrit un peu comme une langue vivante. Et de là, donc, j'ai poursuivi des études plus centrées sur la philosophie indienne et sur le shivaïsme du Cachemire. Et puis après une thèse à Aix-en-Provence, j'ai voulu poursuivre à Paris en rencontrant d'autres chercheurs. Et c'est là que je me suis inscrite auprès de M. Hulin, qui est professeur de philosophie à la Sorbonne. Et puis de là, d'autres activités d'enseignement, d'écriture et de partage. Et ce que je voudrais dire pour conclure, très brièvement, c'est que j'ai rencontré dans les divers centres universitaires où j'enseigne ou dans des écoles de formation de professeurs de yoga, un intérêt très subtil, profond, qui demande une intelligence intuitive, mais aussi un appétit de savoir parmi donc les diverses personnes, et que j'en suis très heureuse. Voilà.
Bon. Le micro fonctionne.
Oui, j'ai
mon propre micro. Oui, voilà, Colette Poggi a dit presque l'essentiel à mon sujet. J'ai en effet enseigné la philosophie, à la fois la philosophie occidentale, mais surtout la philosophie indienne, à l'université Paris 4, d'abord comme maître assistant, et puis finalement comme professeur, jusqu'à ma retraite qui s'est passé en 98, voilà donc 13 ans. Néanmoins, en tant que professeur émérite ou honoraire, continue quelquefois à donner quelques enseignements en France, aussi à l'étranger, et poursuivre, dans la mesure de mes moyens, quelques recherches, toujours dans ce même domaine, philosophie sanscrite. Un peu comme Colette Poggi, je suis aussi particulièrement intéressé encore dans l'école appelée le shivaïsme du Cachemire, mais je fais aussi des travaux, disons, de comparatisme.
Pour ma part, ça marche pas.
Si,
bon, j'ai pas de retour. Bon, disons, l'histoire a commencé à Aix-en-Provence, dans un contexte de lettres classiques. Un jour est arrivé dans une superbe américaine un professeur qui venait des Indes, s'agissait de M. Jean Varenne, qui a donc ouvert un cours de sanskrit où les amateurs de lettres classiques 7 ou 8 se sont rués, ainsi que le professeur de philologie grecque Jean Casabona. Et donc les choses ont commencé ainsi sur 2 ans. Donc on a appris la langue dans le foyer, si vous voulez, indo-européen, avec tout ce qui pouvait être comme fructueux, la comparaison ou le voisinage du latin et du grec. Monsieur Varenne m'a proposé de faire un diplôme qui m'aurait conduit dans un corridor universitaire, enfin, c'est pas péjoratif, et il s'est trouvé que la route a bifurqué en rencontrant Malavika, en rencontrant Jean Klein, en rencontrant Nita Klein, et le sanskrit a pris en quelque sorte la route de l'art et la route des spectacles, et ça a été évidemment une expérience très magnifique que de confronter des textes traditionnels à des exigences tout à fait naturelles du théâtre et de la représentation. Au centre, ça c'est un secret, c'est pas un secret, au centre de tout cela, il y a évidemment la Bhagavad Gita, qui me paraît un joyau absolument inépuisable, tant au point de vue de la langue, enfin, qu'au point de vue de la pensée, qui peut en s'en exhaler de jour en jour et d'année en année. Voilà donc le bref parcours. Alors, on fait un grand bond en arrière par rapport à plusieurs milliers d'années, par rapport aux festivités actuelles du Centre Pompidou, avec le sanskrit comme ça, mais on peut retomber très bien, très facilement sur ses talons. Le sanskrit qui s'est infiltré au fond dans notre langue, c'est un peu cette sorte de perspective-là. Alors on pourrait, si vous voulez, distinguer deux types d'immigrants. Il y a ceux qui sont naturalisés et puis il y a les résidents. Les naturalisés, qui viennent directement du sanskrit, enfin on les a oubliés, mais je vous en cite quelques-uns. Le gingembre, par exemple, la jongle, le mandarin, le chacal et le ponche. Le ponche qui est donné comme étant la forme de pancha parce qu'il y avait 5 ingrédients dans la boisson. Donc voilà, si vous voulez, eux, ils sont naturalisés, on ne discute plus, si vous voulez. Hein, il n'y a pas de contrôle d'identité aux frontières d'aucune manière. Et puis, il y a les résidents. On peut en énumérer quelques-uns, on va en pénétrer quelques-uns du type yoga, maya, nirvana, karma ou encore Bouddha. Mais avant, peut-être est-il bon de donner quelques traits caractéristiques de la langue sanskrite.
Alors, quelques traits caractéristiques. En fait, le sanskrit est une langue extrêmement à la fois proche de nous, comme vient de le dire Alain Porte, puisque nous avons dans le sanskrit, on pourrait dire aujourd'hui, la sœur aînée des langues indo-européennes, et non plus la mère, comme l'on disait du temps lointain où j'ai fait mes études. Et par ailleurs, il y a aussi une une altérité, une étrangeté, et c'est souvent par ce détour justement par une autre langue que l'on peut mieux redécouvrir la sienne à travers ses racines peut-être. Alors, ce que tu attends de moi, c'est une description du sanskrit. Alors, des déclinaisons. Oui. Donc, c'est une langue extrêmement plastique qui se décline. Il y a 8 cas qui a masculin, féminin, neutre. Et lorsque l'on conjugue un verbe, eh bien, on ne dit pas « je parle »,« tu parles », »,« il parle », mais on commence traditionnellement par « il parle », »,« tu parles », »,« je parle ». Donc, c'est déjà une approche qui interroge, on peut dire. Sinon, sur la plasticité de la langue, il faut se référer pour n'importe quel mot. Par exemple, nous allons parler aussi de nirvana ou de yoga, etc., à la racine du mot, puis au préfixe et éventuellement au suffixe. Et donc, à travers, par exemple, si je vais prendre un exemple très simple, le verbe « gam », qui veut dire « aller », et qui a donné en anglais « to go », ou en allemand « gehen », eh bien, cette racine « gam », si on ajoute un préfixe « a gam », par exemple, c'est « venir de », ou « habi gam », »,« aller vers », »,« prati gam », »,« faire retour », etc. Si bien que lorsqu'on a affaire à un texte, on peut éventuellement non seulement lire la traduction sur le dictionnaire, mais aussi essayer de comprendre, à partir de l'image cinétique de la racine, le sens du terme, du verbe ou du nom en l'occurrence.
Mais peut-être est-ce que c'est le terme même de sanskrita, oui, qui peut résumer ce que vous dites.
Je vais dire quelques mots sur le terme même. Quand nous disons sanskrit, nous traduisons le sanskrit sanskrita, c'est-à-dire que c'est un participe passé d'un verbe avec un préverbe samskrit. Kri, ça veut dire faire, et on le retrouve dans Karman, par exemple. Et puis, le préfixe sam, c'est le cousin germain du grec sun, du latin com, donc aussi une petite lettre intermédiaire, mais je passe là-dessus. Le verbe samskrit, si nous le prenons à l'infinitif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire quelque chose, mais de manière que cette chose soit parfaite, soit complètement élaborée. Et donc le sanskrit, c'est la langue travaillée, retravaillée. On a réfléchi dessus, on a éliminé un certain nombre, pas toutes d'ailleurs, mais un certain nombre de bizarreries qui étaient venues comme ça par l'usage, et on en fait donc un instrument de communication en principe idéal. Et on peut rapprocher ce terme samskrita d'un autre terme de la langue sanskrite, de la langue religieuse du brahmanisme notamment, qui est le terme samskara, que nous traduisons très approximativement, bien sûr, par sacrement, parce que nous n'avons pas de terme tout à fait exact. Les samskaras, ce sont des rites à la naissance, lors de la cérémonie d'initiation, lors du mariage, à la mort, etc., des rites qui sont censés transformer l'homme brut, l'homme naturel, en un homme authentique, ça commence, un homme qui réalise tout à fait son essence. Donc, samskrit, ça veut dire perfectionner, mener jusqu'à sa forme idéale. Et il est vrai que jusqu'à nos jours, au moins les pandits, ceux qui détiennent la langue, pensent encore volontiers que le sanskrit, c'est la langue idéale. Et il y a même eu, au cours des siècles, une idéologie brahmanique qui voulait que toutes les langues du monde, et d'abord les langues indiennes autochtones, les vernaculaires, comme nous disons, eh bien, étaient des prakrites, c'est-à-dire des langues qui sont poussées naturellement comme ça et qui n'ont pas bénéficié des perfectionnements du sanskrit. Et même une tendance qui n'est plus guère en vogue aujourd'hui, mais qui a été longtemps tout à fait dominante, à considérer toutes les langues du monde comme des abâtardissements à partir du sanskrit. Donc, pour les Indiens, que ce soit les poètes, que ce soit les philosophes, eh bien, des idées, idéalement, ne devraient pouvoir s'exprimer qu'en sanskrit. Mais évidemment, nous nous dérogeons, bien sûr, puisque nous traduisons, avec les problèmes dont on va peut-être parler, hein, nous traduisons comme nous pouvons le sanskrit dans toutes nos langues modernes. Et même au départ, hein, je peux signaler une petite curiosité, quand on a commencé à traduire du sanskrit, historiquement, par exemple, la première traduction, ça a été celle de Wilkins de la Bhagavad Gita en 1785, si je ne m'abuse, assez vite, parallèlement, on a commencé, par exemple en Allemagne, on a traduit ces mêmes textes directement en latin. Et c'est seulement après qu'on a eu recours aux langues vivantes d'aujourd'hui. Je m'arrête.
Oui, je voulais juste... oui, donner... Donc si je tire quelque chose là qui nous mène dans notre direction, notre étude de quelques mots, il y a dans la traduction, entre guillemets, de Samskrita, donc il y avait deux niveaux. Il y a une sorte de niveau objectif du parachèvement, et puis ce mot qui risque de prêter à confusion parce qu'il est qualitatif et qu'il juge de la perfection, enfin du parfaire. Oui, parfaire, voilà. Et donc on a souvent l'acception de d'une langue parfaite est souvent celle qui est la plus retenue, enfin, plutôt que de la langue complètement achevée ou parachevée. Enfin.
Oui, je voulais juste ajouter c'est assez curieux, cette petite touche. Par exemple, ceux qui ne parlaient pas sanskrit ou une langue parfaite, eh bien, on les appelait les Barbara. Ou les Mlecha, hein,
donc oui.
Barbara aussi, c'est ceux qui baragouinent en fait.
Oui. Hein,
et Mlecha, c'est ceux qui aussi ont quelque chose de non pur en fait, hein, dans l'expression de la langue.
Voilà.
Donc il y a vraiment une contraste entre la langue la plus parfaite possible et puis la langue que l'on ne comprend pas.
Bon, peut-être on va ouvrir notre inventaire ici, donc avec un. Je voudrais citer quelque chose qui me paraît très pertinent, enfin une phrase d'un linguiste que certainement vous connaissez, d'Émile Benveniste, qui a des études extrêmement fines, percutantes et la plupart du temps extrêmement intelligibles à la lecture. Il dit que le sens d'une forme linguistique se définit par la totalité de ses emplois, par leur distribution et par les types de liaisons qui en résultent. Et là, c'est vraiment une sorte de pavé dans la mare pour essayer effectivement de ne pas laisser, si vous voulez, les termes que nous utilisons, enfin ces fameux résidents dont je parlais tout à l'heure, de ne pas leur coller, si vous voulez, une effigie qui sert de lieu commun, qui sert de passeport universel et qui n'est en fait qu'un poncif. Donc, alors que effectivement l'éventail est considérable. Donc, je ne sais pas, voulez-vous alors le yoga, voilà. Mais prenons le yoga comme sujet d'étude.
Le yoga, bon, on pourrait d'abord donc se rapporter à la racine du terme yoga, qui est yuj. Cette racine donc monosyllabique, il y en a à peu près 2000 en sanskrit. Yuj signifie joindre, assurer une jonction, unir, mais au départ, il y a une image très concrète qui est celle d'un attelage, donc c'est tenir sous le joug, en fait, hein, des bœufs, des buffles, etc. Mais de là, l'idée d'attelage, d'union, de maintenir ensemble, évidemment, a pu s'épanouir dans un autre registre qui est celui justement des pratiques psychophysiques, etc., telles que les pratiques de yoga justement. Et dans ce cas-là, il signifie peut-être assurer une parfaite jonction de l'être avec son centre. Voilà, on peut définir également cette racine yuj à partir d'une expression qui dit atteler son esprit et donc être attentif. Manas yunakte. Voilà. Donc je laisse la parole à Michaela s'il veut compléter.
Je crois qu'on a dit l'essentiel sur le terme yoga. On peut signaler, on a déjà un tout petit peu parlé de la Bhagavad Gita tout à l'heure. Dans la Bhagavad Gita, vous avez un usage un petit peu original du terme yoga. Quelquefois, il est pris dans le sens le plus, à la fois le plus courant et le plus technique du terme, presque déjà ce qu'on appelle le hatha yoga. On mentionne des postures, on mentionne manière de se tenir droit, etc., etc. Mais plus généralement, on en parle comme d'une voie ou d'une méthode. On parlera de jnana yoga, par exemple, yoga de la connaissance, le karma yoga, yoga de l'action, même qui peut aussi quelquefois de bhakti yoga, c'est-à-dire yoga de la dévotion, yoga de l'amour, au sens bien sûr d'amour divin. Mais il y a quand même, ça n'est pas un écart de sens inadmissible. Parce que dans la racine yuj, on vient de parler, il y a l'idée d'une application à. Une fois qu'on est attelé, comme nous disons un peu en français, s'atteler à une tâche, c'est-à-dire s'y consacrer, rassembler toutes ses énergies pour accomplir cette tâche de la meilleure manière possible. Et donc, dans la Gita, vous avez cet usage un petit peu extensif du yoga comme voie ou comme méthode. Donc, c'était juste une petite remarque complémentaire sur yoga.
Si je peux abonder dans votre sens, il me semble qu'une des images, parce que l'Inde a développé évidemment de multiples perspectives sur l'homme, sur la vie, sur l'univers, mais l'une des images clés, disons, de ces philosophies pratiques, c'est de partir d'un mal-être de l'être humain et de le diagnostiquer comme à l'origine une sorte de décentrement ou de dispersion ou d'écart par rapport justement à une sorte d'harmonie ou d'emboîtement juste, ajusté de toutes ces dimensions, qu'elles soient physiques, psychiques, conscientes, non conscientes, spirituelles. Donc, dans ce cas-là, il me semble que yoga pourrait signifier justement ce parfait ajustement de toutes ces dimensions.
Oui, je voudrais faire état quand même de certaines dissonances par rapport à cette présentation même nuancée du terme de yoga, parce que dans la Bhagavad Gita, linguistiquement, cela m'a toujours posé des problèmes. Il y a des petits détails qui sont quand même très surprenants. Un détail de table des matières, par exemple, les 18 chants de la Bhagavad Gita ont un titre, et ces 18 titres se terminent tous par le mot yoga. Certains traducteurs ont eu un malaise visible dans leur présentation pour s'acquitter, si vous voulez, de l'équivalent ou de la désignation du chapitre à cause de ce mot yoga qui exerçait une influence extrêmement à la fois tutélaire et à la fois hégémonique, si vous voulez, dans la pensée, à mon avis, de ceux qui se penchent sur ce type de texte. Et comment, alors, un exemple, le premier chant qui est clairement, si vous vous souvenez ou vous devez savoir, qui est clairement la détresse d'Arjuna, ou le désarroi d'Arjuna, ou la dépression d'Arjuna, c'est le mot vishada, c'est la déstabilisation, si vous voulez, le mot vishada en sanskrit. Très difficile d'être honnête, de s'acquitter honnêtement d'une traduction littérale de l'intégralité du titre en disant le yoga de la dépression d'Arjuna, si vous voulez. Ça ne marche pas, bien évidemment. Donc, je n'ai pas vraiment résolu quel était cet emploi spécifique du mot yoga, puisqu'il est accolé à chacun aux 18 titres. Mais bon, si on le met en facteur commun, on élimine avec justesse, si vous voulez, un grand problème et des scrupules et des cas de conscience, si vous voulez. Parce que, en raison effectivement de ce yoga qui, pour moi, enfin ça c'est une idée personnelle, qui la technique élaborée, bien entendu, telle qu'elle est aujourd'hui et qui ne souffre aucune contestation, on a parfois l'impression que ceux qui se sont aventurés, si vous voulez, dans la Bhagavad Gita, par exemple, ce texte-là, mettons, aux alentours de l'an zéro, ou entre le deuxième avant, deuxième après, en tant que rédaction, tout simplement, si vous voulez, sont arrivés sur les lieux 2000 ans avant, avec un bagage qui s'était lourd, qui s'était constitué, qui s'était amplifié, et qui avait, naturellement, qui s'était épanoui, si vous voulez, à notre époque. Et puis, si vous voulez, il y a des milliers de détails quand on regarde le texte comme un élément littéraire. C'est ce qui n'est pas du tout une rabaisser le texte. Mais si on le laisse, si vous voulez, dans la dynamique du Mahabharata, la Bhagavad Gita s'inscrit parfaitement et elle n'est pas, il y a eu tellement d'hypothèses, si vous voulez, comme une espèce d'inclusion ou d'incrustation ou d'importation philosophique qui a trouvé sa place comme ça à un moment donné. Si on lui laisse sa réelle place, si vous voulez, dans le dynamisme dramatique, à ce moment-là, effectivement, ça peut paraître assez étrange que on vienne lui parler de yoga pour résoudre des problèmes cruciaux, des problèmes cruciaux, c'est-à-dire le problème de son dharma, c'est combattre ou ne pas combattre. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est là au cœur même. C'est une problématique violente, enfin très intense et bien au-delà, à mon sens, d'une sorte de distillation ou d'enseignement de yoga. Enfin, c'est comme ça, si vous voulez, que je vois la situation. Je terminerai là juste par cette intervention là. Il y a un exemple moi qui m'a toujours, deux shlokas qui m'ont toujours intrigué, qui sont assez significatifs parce que ça fonctionne comme Krishna donne une double définition, si vous voulez, du yoga. Et on rentre alors là en plein dans notre sujet, c'est-à-dire, vous vous souvenez, c'est les intraduisibles hein, qui nous sert de lampe, si on peut dire, une obscure clarté. Hein. Et donc yoga qu'on va pas traduire, mais on en a deux définitions qui ne se rattachent pas spécialement à une technique. L'une c'est samatvam yoga uchyate, c'est-à-dire une équanimité. Et puis, deux shlokas plus loin, c'est complété par une autre définition, évidemment, qui est consubstantielle, qui est que c'est une habileté totale dans les actes. Yoga karmasu kaushalam. Vous voyez, l'auteur donne un double éclairage. Et ce double éclairage, on est dans le langage, on est dans les mots, on a comme une espèce de saveur. Et moi, enfin, sans faire des extrapolations considérables, moi je ressentais, si vous voulez, que c'était comme une pièce de monnaie où il y avait deux faces qui étaient si intimement liées qu'on ne savait pas laquelle était la première ou laquelle était la seconde, qui avait commencé et qui avait suivi. C'était indescriptible, ça, on ne peut pas le trancher. Mais c'était en quelque sorte posé que, si vous voulez, pour en faire un résumé, posez que le mot yoga inscrit en lui, si vous voulez, deux dimensions qu'on est obligé dans le discours, bien sûr, de développer, à savoir ce qui est dit d'une autre façon, naturellement, dans le texte de la Gita et dans d'autres, considérer toute chose d'un œil égal, ce qui nous renvoie bien entendu au dépassionnement, ce qui nous renvoie à ce que certains appellent de l'indifférence, mais qui est, si vous voulez, cette sorte de sérénité, d'équanimité, c'est le mot assez joli qu'utilise le sanskrit samatvam. Et cela se double, si vous voulez, en quelque sorte d'une efficacité dans l'action qui est totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déperdition d'énergie, il n'y a pas de friction comme dans un phénomène physique, si vous voulez, où il y a par exemple un roulement et l'énergie naturellement se perd s'il y a roulement, contact avec une autre surface, etc. C'est le miracle et ce que d'autres, si vous voulez, on peut aller chercher, c'est des auteurs védantines, peut-être, enfin, c'est un équivalent hein, qui est, à savoir que nul n'agit. C'est l'action qui se fait toute seule, si vous voulez. Vous voyez, dans ce cas-là, c'est cela qui est donné. Si je l'interprète comme ça, l'habileté dans les actes. Voilà. Vous voyez, donc là, ce sont deux choses, et ces deux éléments sont intimement liés. Enfin, et à mon avis, ça définit si vous voulez, le problème d'un état créateur, d'un état créateur total. Ce qui fait que, le problème, j'en terminerai là, le problème, si vous voulez, de la traduction, là, puisqu'on était là sur cet item des intraduisibles, la traduction, souvent, selon les occurrences, j'ai été obligé de choisir, selon le contexte, évidemment, hein, comme dit Benveniste, hein, le sens d'un mot, c'est la totalité de ses emplois, et effectivement, nous, comme on ne peut pas avoir un mot unique qui condense en lui une polysémie si extraordinaire, eh bien, donc on avait le choix entre le détachement, si vous voulez, dans certains, pour traduire le mot, ou bien l'action. Voilà, le détachement et l'action. Mais les deux sont réunis, enfin c'est ma sensation, dans le mot yoga, et alors on peut se dire, bon sang, le sanskrit a inventé un mot non-duel. Voilà.
Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Parce que ce que tu viens de dire m'a fait penser à cette image. Il me semble que c'est justement le monde de l'image est très utile pour rendre certains termes intraduisibles, comme justement le char. Hein, qui est si prééminent dans la Bhagavad Gita, où il y a en même temps cette jonction à travers les rênes, à travers le cocher, justement aux chevaux, etc. Et c'est toute une unité qui est en mouvement. Et donc, cette idée d'équanimité, de sama, d'équilibre, n'est pas du tout, ne contredit pas du tout l'idée, justement, de la dynamique de yoga. Voilà.
Oui, on avait évoqué là, vous avez évoqué l'histoire de l'attelage. Moi, mon idée, si vous voulez, parce qu'on a évidemment sémantiquement, étymologiquement, on a le dzugon, le yugum, etc., le yugam, l'histoire du joug. Bon, oui, ça, très bien, on ne discute pas l'histoire du joug. Mais dans l'histoire, yoga, c'est attelage. Enfin, bon. Et je me suis toujours posé la question, je veux dire, est-ce que ça veut dire l'attelage, est-ce que ça désigne le fait de mettre deux bœufs, par exemple, sous un même joug, ou est-ce que ça veut dire la jonction entre, si vous voulez, des coursiers, des animaux, des bœufs ou des chevaux, et le char, ou qu'ils sont susceptibles de transporter. Et moi, enfin, mon penchant, si vous voulez, c'était cette jonction, si vous voulez, entre des bêtes de somme, en quelque sorte, et une voiture. Parce que quand vous avez joint les deux, ça marche, ça roule. Voilà. Et il faut un cocher. Il faut un cocher, oui, qui est la bouddhi, la conscience.
Par exemple, c'est pas la Bhagavad Gita, développe assez longuement cette métaphore.
C'est très bien, d'ailleurs.
Et l'atman, le soi, dont on parlera peut-être tout à l'heure, il est vu comme le propriétaire du char. C'est pas lui qui le conduit, hein, il est là, il est conduit comme si c'était un taxi, en quelque sorte. Et puis, c'est la bouddhi, intellect, comme on voudra dire, qui dirige effectivement le char au milieu des embouteillages. Et tout ça.
Donc. Et c'est l'ensemble. À mon avis, c'est cette idée justement d'ensemble qui est très importante dans l'idée du yoga, où l'un séparé de l'autre.
Les chevaux, là, ce sont les indriyas, c'est-à-dire en gros les sens, les puissances sensorielles, mais qui sont de perception, l'ouïe, la vue, etc., mais aussi d'action, se déplacer, parler, etc. Tout ça, ça s'appelle aussi des indriyas, des karmendriyas, c'est-à-dire des indriyas pour agir. Évidemment, c'est un peu bizarre en français.
Mais le manas, ce sont les rênes.
Le manas, il est ambivalent. Le manas préside à la fois au sens qui véhicule de l'information, et il répartit le travail aussi entre les karmendriyas, la voix, les mains, les pieds, etc.
Mais souvent, il me semble qu'on assimile que le manas est en fait considéré comme le sixième sens.
Mais il faudrait dire plutôt le onzième.
Le onzième, exactement.
Il y en a cinq de chaque côté.
Oui, les organes de perception, d'action et le onzième, ouais. C'est ça. Un sixième sens qui n'est pas. Je veux dire, si on laisse la bride sur le cou, les rênes sur le cou des sens, là, c'est la catastrophe. Il faut que le cocher.
D'où cette idée, il me semble, de Huge aussi, de maintenir, de retenir des chevaux qui s'emballent. Il me semble qu'il y a une certaine un contrôle dans le terme.
Bien sûr, absolument, oui. Et ça serait rapproché chez nous, notamment de Platon. la métaphore de l'attelage, du cocher, des chevaux disciplinés, des chevaux indisciplinés, etc. Nous la retrouvons dans le Phèdre, dans d'autres dialogues de Platon également. Est-ce qu'il l'a emprunté à l'Inde ou est-ce que c'est une découverte parallèle? Ça est très très difficile d'en décider.
Il fallait aussi, on avait évoqué cela, pour de la fertilité, la fécondité de cette racine huge là, qui est attelée, en fait, évidemment, au départ, plus que joindre, hein, c'est l'attelage. On pouvait repérer des emplois dans des dérivés comme yuktam ou comme yukti, des emplois extrêmement simples, extrêmement familiers. Par exemple, on pouvait dire... Je me souviens dans le Panchatantra, quand on introduit un shloka qui va lui-même introduire une fable, un des personnages dit, par exemple, « Yuktam eva shruyate ». Enfin, en vérité, on dit judicieusement ou excellemment. Voilà, il y a une sorte d'astuce, de finesse d'esprit. Et on évoquait aussi que yukti, par exemple, est aussi peut être un artifice, peut être une ruse enfin, aussi. Enfin, en même temps, hein, le truc, je crois, dont vous parliez. Enfin.
Ce qui sert le procédé ingénieux qui résout d'un seul coup un problème pratique.
Voilà.
Oui, il n'y a pas d'autre mot que « truc ». Enfin,
oui, oui. oui. Est-ce que
on va peut-être passer à d'autres
on suit, ben oui, on va peut-être évoquer Maya. Ça doit... Enfin, le yoga, lui, il n'a pas besoin d'être... Enfin, Maya, yoga, dans notre monde, évoque effectivement une discipline. On n'a pas besoin de le commenter, mais Maya, on sait que... Enfin, il me semble que l'équivalent courant et la manière dont les locuteurs ont emprunté ce mot au sanskrit a la valeur naturellement d'illusion, telle qu'elle, d'illusion. Donc il faut peut-être cette...
Maya, oui, c'est un terme aussi difficilement traduisible en un seul mot en français. Si on se réfère à la racine, comme d'habitude, ma donne le sens de mesurer, limité, mais aussi on peut le rattacher ce mot maya à la racine mai qui signifie projeter des formes. Donc dans ces cas-là, il y aurait plus le sens d'une magie, d'une fantasmagorie. Et on fait allusion dans les Védas justement à des jeux entre les dieux et les asuras, les dieux et les antidieux, où les uns et les autres essaient de se transformer pour échapper, par exemple, l'un se transforme dans une forme immense, puis une forme infime, etc. Et donc, la Maya représenterait en quelque sorte une sorte de réseau d'images. Peut-être ce mot « image », « magie », en fait, proviennent de ce terme sanskrit. Voilà. Et donc, Alors après, il y a une différence selon les courants philosophiques de l'Inde. Pour certains, le monde... est réellement, enfin, si on peut dire, illusion. Hein. Et pour d'autres, il n'est illusion que dans la mesure où on ne le voit pas tel qu'il est. Donc, il est en dernier recours réel. Et je voudrais juste revenir sur cette idée d'illusion qui nous ramène à la thématique du jeu, J-E-U, car dans illusion, c'est in ludo, rentrer dans le jeu, à partir du latin. Et en effet, on peut concevoir la Maya, donc l'immense déploiement des formes, des phénomènes physiques, psychiques, etc., auxquels on fait allusion dans certaine pensée indienne, comme en fait un jeu divin. Hein, ce serait le dieu Shiva ou autre qui s'amuse à projeter des formes. Et dans ce cas-là, le monde est vu presque comme une œuvre d'art, finalement.
Mais est-ce que le jeu, on n'utilisait pas le mot lila à ce moment-là?
Lila aussi, tout à fait, ou krida, mais lila, tout à fait. Oui.
Juste un petit quelque chose là, à propos de la Maya et de ses origines mythologiques, védiques, etc. Souvent, la manière dont un dieu, par exemple, s'entend à leurrer ses adversaires, c'est les démons qui le pourchassent, il se démultiplie. Il éclate un peu comme une fusée de feu d'artifice en une multitude de reflets. Et pour prendre une comparaison moderne, c'est un petit peu comme dans la guerre moderne, les avions qui sont menacés par des missiles, pour détourner les missiles, ils émettent de multiples leurres que les missiles prennent à tort pour leur cible elle-même. Donc cette idée est tout à fait centrale et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un rapport très profond, comme vous l'avez rappelé, entre sur le plan plus philosophique, là, hein, entre la Maya et la multiplicité, notamment dans le Vedanta, hein, la multiplicité dans les systèmes dits Advaita, c'est-à-dire non duels ou monistes entre guillemets pour résumer, la vérité, l'être, le réel est absolument un et indivisible, hein, et par le fait même qu'il y a pluralité, qu'il y a différence, eh bien ces systèmes posent d'avance que cette différence, cet éclatement dans la multiplicité ne peut être que tromperie. Hein, donc il y a ce rapport tout à fait essentiel et paradoxal, bien sûr, puisqu'au départ, c'est vrai, ma, ça veut dire en effet, c'est la même racine. Très bizarrement que tous les termes grecs, métrone, métrétiké, etc., qui, du côté grec, au contraire, semblent ouvrir la voie vers la mesure, vers la géométrie, vers la science. Il est tout à fait frappant de voir que, à partir d'une même racine partagée, eh bien, des deux côtés, on a tendu, d'une certaine façon, à considérer que le cloisonnement d'un espace par la répartition d'un espace en une multitude de sous-espaces, chacun avec ses propriétés particulières, eh bien, que ça, c'était la perte de l'unité, tandis que du côté grec, dont nous sommes aussi, dans certaines mesures, les héritiers, eh bien, on a pensé au contraire que le réel se construisait par la jonction, par l'ajustement réciproque des formes, d'abord des formes géométriques, puis des formes en général, les unes par rapport aux autres. Je crois qu'il y a là une grande ligne de partage des eaux entre la pente suivie par la spéculation indienne d'un côté et celle suivie par les Grecs de l'autre. Enfin, c'est un peu une digression.
Non, c'est pas une digression, c'est un éclairage. Mon point de départ était plutôt toujours effectivement en rapport avec des contextes. Qui ne sont pas forcément en désaccord avec la pensée qui peut s'élaborer à partir d'eux. Mais au départ, tout simplement, il y a cette idée de mesurer. Et on n'est pas, l'illusion n'est pas connotée, elle n'est pas connotée par la mesure. Cette mesure. Et je crois que Arthur Avalon, là, dans La puissance du serpent ou quelque part ailleurs, avait un couplet à propos de Maya. Je crois qu'il l'appelait, c'est un peu une terminologie un peu barbare, la force de finitisation. C'est un peu barbare, mais partant du principe, si vous voulez, de vase communicant et d'harmonie, si vous voulez, dans la création, l'individu tel qu'il est, et tel que nous sommes, étant pourvu, si vous voulez, de facultés sensorielles parfaitement aptes à fonctionner, dans des limites qui seront, bien entendu, âprement ou benoîtement soulignées, ça dépend de quel point de vue on a sur la valeur de l'être humain, bien entendu. Mais, en tout cas, il soulignait une sorte d'adéquation entre le monde créé et les outils que l'individu possède, si vous voulez, pour appréhender la réalité. Donc, si vous voulez, c'est dans le meilleur des mondes, c'est un mariage parfait, si vous voulez. Hein. On a les moyens de percevoir ce qui doit être perçu. Enfin, à l'extérieur. Bon, évidemment. Est-ce que l'objet de la perception est évidemment ce que la Maya a créé, est-ce que c'est véritablement la réalité authentique? Poser la question, c'est évidemment mettre le verre dans le fruit, ça, c'est évidemment clair. Alors que les poètes, eux, ils mettent le fruit dans le verre, mais ça, c'est un autre. Ça, c'est un. C'est, ça, on est dans une autre, absolument dans une autre dimension. Donc, je veux dire, cet équilibre entre l'appareil, si vous voulez, hein, psychophysique de l'homme, et puis la maya, c'est-à-dire le monde des formes. Vous voyez, donc c'est donc la manifestation elle-même, le monde phénoménal. Et je pense que en un premier stade, en un premier temps, c'est bien cela dont il est question. Hein. La Maya ne se discrédite pas parce qu'elle est. Elle est mise à sa place et au terme nommée illusion par la manière de l'appréhender ou la compréhension qu'on en a ou comment on veut l'interpréter. Ça, c'est tout à fait la liberté, si vous voulez. Hein. C'est pas une doctrine urbi et orbi. Enfin, c'est une approche qui a tout à fait sa valeur, pourvu qu'elle ne soit pas érigée, évidemment, en principe absolu et fanatique. Ça, c'est tout à fait clair. Mais on peut bien s'en rendre compte. Et alors, au niveau, juste pour donner un petit exemple là, enfin un exemple, c'est encore bon tiré de la Bhagavad Gita, et ça, un exemple très symptomatique. C'est quelque chose qui est Naham Prakasha Sarvasya Yoga Maya Samavrita. C'est les deux premiers padas de ce shloka. Ça peut se traduire très simplement. Hein, je ne suis visible pour personne. Naham Prakasha Sarvasya. Et alors là, la question se pose de façon tout à fait simple et naturelle, hein, sans turbulence métaphysique. On voit yoga, maya, samavrita, parce que je suis totalement voilé, caché, enveloppé par... Et alors là, écoute, on bute littéralement, on trébuche plus exactement sur un couple d'intraduisibles, hein, puisque c'est notre enseigne de yoga maya, avec un composé qui est yoga maya. Est-ce que... Donc, jamais personne n'a dit par l'illusion de mon yoga, ça... Vous pouvez être sûr que personne n'a osé ça. Oui, bien sûr. Non, il y a quand même des prudences. Mais c'est extraordinaire que c'est tout à fait extraordinaire que. Enfin, je veux citer absolument personne là parce qu'il y a c'est pas une question de. On n'est pas une kermesse. Mais dans certains ouvrages, de traduction, on voit bien. Comment les scrupules, si vous voulez, les quatre consciences du traducteur qui, bien entendu, là, dans ce shloka que je viens de vous citer, le contexte, il est dominant, bien entendu. Dans d'autres cas, le yoga peut absolument, effectivement, trouver sa place, même en tant que mot. Enfin, oui, il n'est pas déplacé. Et donc là, à chaque fois, et alors ici, évidemment, là, on a, par exemple, on a eu des quelque chose qui est de l'ordre de la magie, par exemple. Hein, ou bien un traducteur va dire ma puissance créatrice. Bon, c'est très intéressant. Si on décompose, moi je décomposais, enfin, mot à mot, parce que je suis totalement environné, enveloppé, caché par la manifestation de mon pouvoir créateur. C'est-à-dire qu'effectivement, le monde des formes, le monde sensible, ne permet pas d'accéder à la véritable réalité de celui qui parle, qui est effectivement le sans-forme. Hein, c'est très... Donc, je trouve, enfin, personnellement, je trouvais cet emploi, si vous voulez, de yoga maya particulièrement juteux, si je peux dire, parce que ça donnait, au niveau du sanskrit, ça ne change rien. Les mots, si vous voulez, ils sont là, ils sont les mêmes. Bon, ils sont compris, j'imagine, par les locuteurs en fonction du contexte, qui est le leur. Ils ont cette chance extraordinaire d'être nés là, de que le sanskrit était... probablement leur milieu, ça ne suscitait aucun problème. Mais nous, évidemment, quand on essaye de tracer un pont pour donner un équivalent, on n'y arrive pas parce que, évidemment, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, la question, effectivement, je dirais presque à la limite, pour traduire, il faudrait revivre et réinventer, au fond, une genèse linguistique. Et peut-être que là, à ce moment-là, on inventerait un terme qui correspondrait à la chose. Mais eux, c'est disons que ce que la chose évoque et le mot sont en coïncidence aussi large que puisse être, si vous voulez, le spectre d'équivalent linguistique que l'on peut donner, que nous sommes obligés de donner selon, naturellement, les divers emplois ou les divers contextes. Voilà.
Je
J'aurais voulu ajouter quelque chose.
Oui,
pour,
un peu long, là.
Non, pas du tout, mais en écho et pour surenchérir, c'est que non seulement il y a le réseau des formes qui nous empêche d'accéder au réel, mais il y a aussi le réseau des noms. Et donc, il y a ce doublé, nama, rupa, les noms et les formes. Et il est, comme tu viens de le dire, à travers les noms, à travers le langage, à travers l'expression verbale, eh bien, on ne peut accéder non plus à l'essence des choses. Donc, Maya relève à la fois de ce double jeu, de ce leurre, justement, à double dimension, des noms et des formes.
Voilà. On passe à... Voulez-vous qu'on aille dans le nirvana? Ah, ça, voilà, un mot qui fait frémir. Enfin.
Bon, je parle un peu du nirvana. Le nirvana aujourd'hui, bon, le mot est très très connu. Il est connu, il est célèbre. Ça ne veut pas dire qu'il est compris. On a même donné, je crois, le nom de nirvana à un parfum. Alors qu'évidemment, nous ne sommes pas tout à fait dans le même registre. Ouais, le terme est en effet intéressant. À la fois par son étymologie et puis visiblement par l'image qui est derrière ce terme. Hein. Bon, décomposons-le à nouveau. Vous avez une racine va qui veut dire souffler, comme par exemple on dit du vent qu'il souffle. Hein. En allemand on dit wehen par exemple. Et c'est la même racine. Et puis vous avez ce préfixe nir qui désigne un mouvement de haut en bas. Hein, nirva, c'est souffler dessus à partir d'une position où on est au-dessus. Et l'image concrète d'ailleurs, certains textes font explicitement allusion, hein, l'image concrète, c'est une lampe à huile hein, qui brûle comme ça, et puis quelqu'un... Bon, décide que c'est tard, c'est l'extinction des feux, et il souffle sur la flamme, et la flamme disparaît. Donc, nirvana, être nirvané, comme nous disons parfois, ça veut dire littéralement...
Nirvanescent, même. Ça a été inventé par un auteur français, un auteur de théâtre, par Jacques Audiberti.
C'est extraordinaire, ça. Nirvanescent, oui, en état de... Bon... Contentons-nous un instant de nirvaner, ça a l'air de vouloir dire littéralement souffler, comme on dit qu'un immeuble a été soufflé par l'explosion d'une bombe, c'est-à-dire détruit. Alors, à partir de là, évidemment, il y a une interprétation qui semble aller de soi et qui est en même temps extrêmement dangereuse, hein, puisque le premier nirvané, c'est le Bouddha lui-même. Hein, donc, pendant très longtemps, à la fois les philologues et aussi dans leur sillage les philosophes européens, hein, surtout au XIXe siècle, en ont conclu que le bouddhisme, au fond, c'était un nihilisme, hein, que le Bouddha était délivré de la souffrance, hein, au sens où il est mort une fois pour toutes, c'est-à-dire... non plus destiné à renaître, hein, mais d'une certaine manière anéanti, perdu. Et c'est cette interprétation qui a dominé, comme par exemple Roger Paul Droit l'a bien marqué dans son livre sur l'interprétation, le culte du néant, qui a dominé la philosophie européenne, les interprétations philosophiques européennes jusque tard dans le XXe siècle. Or, si l'image est bien celle-là, en fait, son sens pratique était tout à fait différent. Et pour le comprendre, on est obligé de se replacer dans une vision du monde, dans une sorte de physique ancienne, dans laquelle la flamme, par exemple la flamme de la bougie ou flamme d'un incendie, tout ce que vous voulez, n'était qu'une manifestation locale, temporaire, d'un élément, d'un des grands éléments cosmiques, hein, l'eau, l'air, la terre. Les Indiens ajoutaient un quatrième élément mystérieux qui s'appelle l'akasha, qu'on traduit quelquefois par l'éther, mais peu importe ici. Donc, dire que la flamme est soufflée ici, ça ne veut pas dire que la flamme est détruite ou que l'élément feu est détruit en tant que tel, ça veut dire le feu, ce feu-là qui se manifestait ici, s'est retiré dans l'invisible. Et retiré dans l'invisible, ça ne veut absolument pas dire détruit. Il pourra réapparaître ailleurs lorsque les circonstances adéquates seront réunies. Donc vous voyez un exemple de contresens tout à fait remarquable consistant à attribuer au bouddhisme une interprétation complètement négative et destructrice du salut, alors que les textes, au contraire, souligneront toujours qu'on ne peut plus parler du Bouddha nirvané en termes d'être, de non-être, au sens que nous donnons à ces qualificatifs dans notre expérience. On dira le Bouddha a disparu sans laisser de traces. Il a disparu à la manière, il n'y a pas de trace de lui, de la même manière que les oiseaux ne laissent pas de traces dans l'air à la suite de leur vol, de la même manière que les poissons, à part quelques petites ondes au départ, les poissons ne laissent pas de sillage dans l'eau, etc. Voilà donc quelques petites réflexions qu'on peut faire sur un terme comme nirvana, qui je crois encore aujourd'hui, même en dehors des interprétations philosophiques un peu intransigeantes, eh bien, garde pour chez nous un parfum, c'est le cas de le dire, un parfum peut-être d'évanescence en train de se perdre, quelque chose de fin de siècle, quelque chose d'un petit peu décadent, une interprétation un peu subtile, un peu romantique de la mort qui lui donnerait un certain cachet poétique, mais qui en fait n'aurait aucune vérité.
Là, il y a un paradis hédoniste.
Ah, oui, bien sûr. D'où justement, oui, le nom. Mais il est vrai que petite incidence au passage, il est très curieux que un autre parfum. Samsara, voilà, c'est ce que, effectivement. Or, le samsara, d'une certaine façon, c'est l'inverse. Le samsara, ça veut dire racine sri, qui veut dire s'écouler comme une rivière ou comme un serpent qui serpente, etc. Le samsara, c'est la circulation universelle de quoi ? Ben, des êtres qui meurent, qui naissent d'abord, qui vivent un certain temps, meurent, et dans les conceptions indiennes, ça c'est aussi bien brahmanique que bouddhique, c'est à peu près universel en Inde, eh bien, ces morts sont supposés continuer à circuler dans le grand courant de l'existence et à réapparaître, à se réincarner, comme nous disons dans notre langue, qui n'est d'ailleurs pas celle des Indiens, sous telle ou telle forme, soit humaine, soit au-dessus de la condition humaine, soit aussi, et le plus souvent, en dessous de la condition humaine. Donc le samsara, c'est ça, c'est cette gigantesque circulation des êtres qui, d'une certaine façon, constitue le monde. C'est pourquoi aussi, dans beaucoup de langues indiennes modernes, mettons par exemple en bengali, eh bien, le terme samsara désigne non plus tellement cette entité religieuse un peu difficile à comprendre, cette grande circulation, ce grand circuit des renaissances, mais désigne tout bonnement le milieu ambiant, le monde à la fois physique et social dans lequel évolue un individu. Il y a un film célèbre, mais ancien évidemment, de Satyajit Ray, que certains d'entre vous ont probablement vu, qui s'appelle Apu Samsara. Le monde d'Apu qui décrit en fait l'univers, mais au sens l'environnement immédiat d'un petit garçon bengali, je ne sais plus trop, dans les années 50, quelque chose du genre. Enfin, les personnages qui sont familiers, etc. Donc le terme a acquis ainsi cette diffusion parce qu'au départ, on ne séparait pas vraiment le monde, comme ça, physique, matériel, etc., et puis les êtres qui peuplent, qui animent ce monde et lui donnent son sens. Donc, vous voyez, c'est peut-être une digression, mais presque à chaque fois, avec les termes sanscrits, du moins ces termes majeurs du vocabulaire religieux, philosophique, on est tout de suite amené, on est entraîné dans des cercles de représentation qui sont, bien sûr, en même temps, qui communiquent les uns avec les autres, qui se recoupent les uns les autres de mille et mille manières. Et on sent derrière, vous voyez, une sorte de, toute une grille, toute une image du monde, la langue sanscrite, effectivement, reproduisant à sa manière, mais d'une manière évidemment épurée, beaucoup plus lisible que le fouillis des apparences immédiates, la langue sanscrite comme équivalent du monde, comme traduction lisible du monde et par conséquent comme voie d'accès à travers l'interprétation des textes à ce sens du monde qui nous échappe dans l'attitude naturelle où nous sommes plongés.
Je voulais ajouter justement par rapport à ce que vous avez dit que, comme vous l'avez bien dit, le nirvana, ce serait une sorte d'apaisement, d'apaisement des passions, de tout ce qui peut amener l'être dans des troubles, des fluctuations, etc. Et le samsara, c'est justement être emporté sans fin dans ce cycle du devenir. Et paradoxalement, mais... Ce qui est intéressant, justement, dans certains courants philosophiques comme le shivaïsme du Cachemire ou du bouddhisme, on en arrive à mettre en corrélation, voire en écho, samsara et nirvana, en disant que finalement, samsara et nirvana ne sont pas opposés, mais qu'ils peuvent être réintégrés dans une sorte, pourquoi pas, de yoga, hein, c'est-à-dire de mouvement. Peut-être d'acte d'être en mouvement. Qui n'exclut pas l'un et l'autre, alors ce serait peut-être une manière d'être posée, hitta, hein, un mot aussi lié à samadhi, et néanmoins dans le quotidien, dans la vie.
Oui, je voudrais reprendre le chemin de quelques petites citations et éléments, si vous voulez, de sanskrit qui ont trait à ce mot, nirvana, qui est donc ce... au fond qui est un peu comme, oui, on dit un paradis hédoniste ou comme une sorte de l'ultime domicile fixe de l'âme qui a circulé, de la personne qui a circulé toute sa vie dans le samsara. Il y a un conte justement dans le yoga vachista qui se termine par le roi Shikidvaja qui a des merveilleuses aventures de tentatives d'ascètes. Donc on dit à l'ultime fin, on dit, il y a ces mots où on dit Nirvanam jagama asneha iva dipaka. C'est-à-dire il gagna, on le traduit pas, le nirvana, bien sûr, il gagna le nirvana comme une lampe privée d'huile. Voilà. Et alors, c'est tout à fait ce qui n'annule pas la lampe, effectivement, d'une certaine manière. Mais et je faisais aussi, pour conclure là-dessus, une sorte de rapprochement par rapport à ce que Monsieur Hulin disait précisément, où il y a ce souffle. Mais il me semble que nir parfois c'est aussi franchement une négation. Nirguna par exemple, sans qualité. Donc nirvana. Donc me faisait penser, on avait évoqué cela l'autre jour, à un vers d'un hymne cosmogonique très connu, la cosmogonie, le dixième mandala, 129e hymne, où, si vous voulez, il est défini, alors évidemment, la réalité ultime, c'est-à-dire que, vous savez, ça c'est une chose qui est au niveau du vocabulaire, aussi là aussi c'est une affaire, quand on regarde la civilisation indienne, la pensée indienne, on ne trouve jamais God, on ne trouve jamais Dieu, nommément, il y a toutes sortes d'équivalents, le Brahman, le Paramatma, vous avez Ekam, l'un, et dans cet hymne là, donc il n'y a pas de nom, il est au-delà du nom et de la forme. Donc l'apparition tout d'un coup de cette sorte d'embryon de conscience universelle, qui est en quelque sorte l'écrin d'où toutes les formes vivantes et périssables, au paradoxe, sont sorties, si vous voulez, mais c'est ainsi qu'il le présente, si vous voulez. Hein. Le texte dit ceci, Anid avatam svadaya tadekam. C'est-à-dire qu'on dit... Tadekam, l'un, Anid, respirer, Svadaya, par lui-même, on traduit comme ça, Avatam, sans souffle. L'un respirer lui-même, donc l'un respirer sans souffle par lui-même. Donc, et ça, c'est une représentation. Alors, on est peut-être dans le domaine de la poésie, bien sûr, il faut le prendre tel quel. La phrase veut vraiment dire ceci, il n'y a pas de mystère ni d'herméneutique là-dedans. Mais on dirait que c'est une façon dont c'est Rishi Dantan se sont représentés ou ont tenté de figurer, si vous voulez, cette sorte de mystère auquel le discours n'avait pas accès, et donc ils ont figuré comme ça par une sorte d'arc-en-ciel, par une sorte de trait comme ça. Hein. Et évidemment, c'est tout à fait intéressant d'imaginer qu'ils se sont représentés l'immortelle et l'impérissable réalité ultime, le non-né en quelque sorte, qui consent à pourtant se manifester sous des formes périssables, le non-né vu et ressenti comme quelqu'un qui vit sans avoir évidemment recours à la respiration, qui est probablement peut-être synonyme, je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais synonyme effectivement d'un processus biologique où la mort est déjà engagé est au programme. Donc, c'est pas une apnée qui est pathologique, si on peut dire, si vous voulez, hein, mais c'est un état ou un non-état où, effectivement, que l'on précise en éludant ou en éliminant le fait, si vous voulez, de respirer. Et donc, j'ai l'impression, c'est une pure hypothèse de ma part, hein, que j'ai l'impression que le nirvana peut sémantiquement, étymologiquement, la racine est la même, avatam, sans vent, et nirvana, vana, vous avez le souffle ici, vous avez le vent. Donc il y a cette sorte de connexion, mais bon, c'est juste une observation. Hein. Après, ce qu'on peut en tirer, c'est au lecteur silencieux à le dire.
Sur la racine dont tu parlais, Anne, respirer, on peut le traduire ainsi, mais est-ce que cette racine an, justement, qui est la racine de prana, par exemple, le souffle, on sait qu'elle signifie également vivre, respirer, oui. Se mouvoir. Donc, cette phrase extraordinaire, hein, l'un se mouvait, ou vivait, ou respirait sans souffle, qui est vécu au bord de la mer, j'ai souvent pensé justement à la mer, à une totalité en mouvement, vivante, mais ce n'était pas un souffle extérieur, mais c'était de l'intérieur. Et je trouve que c'est un passage du Rig Veda, donc un des textes, le texte pratiquement à notre connaissance aujourd'hui, un des plus anciens de l'Inde, il y a cette référence justement à un absolu, qui n'est pas inerte, impassible, mais qui est absolument vivant. Il y a cette dynamique intérieure à laquelle peut-être on peut se référer aujourd'hui, car nous sommes toujours aussi démunis d'années plus tard, des siècles et des siècles, pour comprendre ce que c'est que la vie, ce que c'est que la conscience, ce que c'est que le réel, l'univers. Et peut-être, dans ces phrases, a-t-on une sorte de clé, ou disons de tremplin, pour que l'intuition puisse aller un petit peu plus loin. Et donc, je voulais juste rappeler cette idée de Anne, comme qui a donné animé, hein, animus, donc âme aussi, et etc.
Oui, c'est tout à fait, tout à fait juste.
On peut peut-être attacher à cela, parce que je ne sais pas si on aura le temps d'en parler autrement. Il y a un grand terme, un des termes majeurs de la philosophie indienne, qui est le terme Atman, que l'on rend comme on peut par self, ou soi en français, en mettant si possible une majuscule. Et l'équation panichadique et ésotérique qui fonde le Vedanta consiste à dire Atman égale Brahman, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de l'homme, ce qui anime l'homme de l'intérieur, en fait coïncide avec ce qui donne la vie au tout. C'est une seule et même entité vivante. Et à propos donc de Atman, plus philologiquement, il est intéressant de constater que c'est le terme, lui, est formé non pas sur la racine an, hein, mais sur une racine at, qui veut dire aussi respirer, et que vous retrouvez dans le grec atmos, hein, d'où notre atmosphère, que vous trouvez en allemand atmen,
hein, atmos. Même la psyché. Aussi,
oui, bien sûr. Donc cette idée Bon, on connaît beaucoup de civilisations. Hein. Par exemple, toutes les civilisations sémitiques ont des termes, hein, comme Nafs, Nefs, Roua, etc., pour désigner un principe de vie qui est toujours lié tantôt à la circulation du sang, tantôt à la respiration. Les deux choses, d'ailleurs, nous le savons aujourd'hui peut-être mieux que ces civilisations, n'étant que deux aspects d'un seul et même processus. Donc il est assez étonnant de remarquer que dans des zones de civilisation, au principe plus ou moins étanches les unes aux autres, ça a été tout naturel lorsqu'on a cherché à expliquer quelque chose qu'on appellera plus tard dans nos langues conventionnellement esprit ou âme, on a eu recours comme fil conducteur à cette fonction de la respiration qui a été vu comme l'essentiel. D'ailleurs, en sanskrit aussi, on dit, lorsqu'on veut dire un être vivant, on l'appelle pranin, un respirant, littéralement, quelqu'un qui respire, par opposition un cadavre ou bien une pierre, etc., qui ne respire pas. Donc là, le sanskrit, si on avait le temps, on pourrait gloser là-dessus et s'étendre beaucoup, mis l'accent très très fort sur cette centralité du souffle, comme ce qui porte la vie et la conscience. Et ça n'est pas un hasard non plus, bien sûr. C'est une des techniques centrales du yoga, notamment du Hatha Yoga. C'est ce qu'on appelle le pranayama, c'est-à-dire le contrôle du souffle, la discipline du souffle, qui elle-même comporte de multiples variétés, mais tout à fait remarquable que c'est quelque chose qui va s'insérer entre ce qui a l'air plus purement physique ou musculaire, ou concerner les articulations comme les asanas, etc., et puis ce qu'on appelle les membres avancés, ultimes du yoga, qui, eux, font davantage appel à la psyché ou manas, à l'esprit, qui sont des techniques de rassemblement sur soi, de concentration, de méditation, etc. Il semble que le souffle, la discipline du souffle, soit une espèce de charnière qui aide à passer du premier registre au second registre.
Alors, donc, si rendre son dernier souffle, c'est ouvrir la cage à l'oiseau.
Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Oui, on pourrait chercher aussi, non seulement chez nous, mais aussi en Inde, en effet, explorer le registre des métaphores de l'âme comme une espèce de souffle errant qui cherche ensuite à se poser, un peu comme un oiseau qui cherche à se poser, à se fixer. Sur quoi? Sur un embryon en voie de formation qui, à partir de ce moment-là, est animé. Oui. C'est-à-dire qu'il respire pas comme un bébé, mais il respire peut-être de cette respiration intérieure à laquelle fait allusion l'hymne 1029 du Rig Veda.
On est à un carrefour critique, là. Est-ce que je pense qu'il faut prendre le dernier wagon,
le dernier souffle.
Le dernier est le plus beau wagon, Bouddha.
Allez-y. Le Bouddha, c'est celui qui s'est éveillé, donc la racine Bouddha, s'éveiller à connaître, comprendre, et Bouddha, c'est le participe passé. Voilà, donc c'est celui qui a eu accès, qui a accédé à la Bodhi. C'est un mot de la même racine, c'est-à-dire l'éveil, l'illumination. On parle parfois de l'arbre de la Bodhi, sous lequel le Bouddha a atteint cet état. Et on pourrait dire aussi la Bodhi. La Bodhi, c'est aussi un mot de la même racine, qui est la faculté d'éveil. En fait, c'est on peut le traduire de diverses manières, mais c'est l'intuition ou l'intellect intuitif. Ou l'intuition intellective, c'est-à-dire c'est une fonction de l'esprit qui n'est pas dans le temps, comme le manas, la réflexion, la discursivité qui part à l'horizontale, qui cherche divers éléments, tandis qu'on pourrait dire que la Bodhi, elle, agit à la verticale, dans l'instant, dans l'instantanéité. Voilà, donc tous ces termes, en fait, appartiennent à ce registre de Bouddha, l'éveil, l'éclosion de la compréhension. Et donc, c'est le Bouddha donc, qui est cet homme qui s'est éveillé au 5e ou 6e siècle avant notre ère. Donc, on appelait Gautama, Siddhartha, Shakyamuni, etc., hein, qui est parti pour l'éveil.
Oui, je voudrais un petit infléchissement ultime là, au niveau, disons, morphologique, parce que ça, c'est quelque chose qui turlupine parfois. Il y a quelque chose qui, par rapport à la figure, effectivement, du Bouddha, enfin, le mot, on le prend de Bouddha ou du Bouddha, qu'on prend tel quel comme une grande figure. Cet adjectif-là, cet adjectif verbal, bon, on a toujours... là, on rentre un petit peu dans des... Excusez-moi, mais dans des problèmes de physiologie grammaticale. Là, on a, d'une façon très classique, vous savez, au niveau de cette terminologie, des adjectifs verbaux, on en fait souvent... Ça peut marcher, d'ailleurs, dans certains équivalents français... comme des participes passés passifs, hein, pour utiliser, excusez-moi, le terme grammatical d'usage. Or, l'adjectif verbal a une sorte d'équation linguistique. C'est, en quelque sorte, qui exprime le résultat présent, comme le parfait d'ailleurs, le résultat présent d'une action passée. Et pour serrer les choses, quand on dit du Bouddha, bon, ça peut être une précision comme ça un peu mesquine, hein, je ne sais pas, mais quand on dit du Bouddha l'éveillé, ça me fait penser au ravi de la crèche, qui est tout à fait légitime, mais l'éveillé, vous savez, bon, et c'est comme quelque chose qui est comme une sorte de qualificatif, si vous voulez, bien entendu, très flatteur, il n'y a pas d'ambiguïté, enfin, l'éveillé, mais comme un qualificatif. Et moi, je pense que, si vous voulez, dans la glose que l'on pourrait faire, si vous voulez, de Bouddha, c'est plutôt pour rendre, si vous voulez, à Bouddha, ce qui est à Bouddha, en l'occurrence, de le voir comme c'est celui qui est conscience. La traduction, si vous voulez, voyez, de Bouddha, celui qui est conscience. Pas l'éveillé, mais celui qui est conscience. Alors là, voilà, il a tout d'un coup, l'un s'est fait.
Tout à fait, voilà. Oui, tout à fait. Et voilà. Je voudrais revenir à cette métaphore, finalement, du sommeil. Car s'il s'est éveillé, c'est qu'il était endormi. Et le sommeil, c'était le sommeil de l'ignorance. L'ignorance, justement, d'être victime de la Maya. Voilà.
Il y aurait un petit contresens ou un petit faux sens qui pourrait être induit, justement, comme vous le dites, par le participe passé. Mm-hmm. Il faut dire, le comprendre au sens d'une action pronominale. Il n'a pas été éveillé de l'extérieur, comme par réveil ou quelqu'un qui... Il s'est réveillé lui-même au milieu d'un monde de somnambules. Hein. Et il y a eu un premier temps... Évidemment, un peu la fable du bouddhisme, il y a eu un premier temps où il était tout seul, comme ça, sur la terre, et même d'une certaine manière dans le monde, et il s'est posé la question, est-ce possible, ou est-ce que ça en vaut la peine que je parle, c'est-à-dire que je communique à d'autres ce que j'ai compris par moi-même. Et c'est là qu'il y a le fameux très beau, récit, hein, où il passe à côté d'un étang de lotus, et il voit des lotus à divers stades de leur floraison. Il y en a qui sont très profondément enfouis dans la vase, à peine si on les voit. Il y en a quelques-uns, mais très peu, qui sont au-dessus de la surface de l'eau. Et puis il y en a un certain nombre qui sont presque à fleur d'eau, on les voit. Et il dit... Ceux-là, eh bien, ce sont des auditeurs possibles, ce sont des gens, il y a au moins dans le monde, ici ou là, quelques êtres à qui il est possible de communiquer la loi, enfin, le message. Et à ce moment-là, il surmonte ses scrupules et il commence sa vocation d'itinérant, de maître de vérité pendant 40 ans. Mais quand même, je crois que c'est important de laisser en tout cas des mots formés sur la racine, éveil, s'éveiller, etc. Personnellement, j'aime pas trop illumination. D'abord parce qu'il y a des sens un peu péjoratifs en français. Un illuminé, c'est pas très, très beau, très, très flatteur. Et il y a corrélativement donc cette idée que dans l'expérience courante, peut-être même nous, même en ce moment, peut-être, nous dormons. Nous ne dormons pas au sens absolu. Nous dormons et nous rêvons. Nous vivons dans un monde d'apparence que nous prenons pour la réalité. Et en ce sens, quand même, je crois que l'image reste forte de quelqu'un qui, sans secours extérieur, comme ça, parce qu'il vivait sans doute le rêve de la vie d'une manière plus dramatique que le commun des mortels, a senti une contradiction intolérable, s'est assis sous le banyan, le ficus religiosa, et dit « je n'en partirai pas avant d'avoir résolu cette énigme ». Il y a un côté héroïque, et un côté effort prodigieux sur soi-même, sans modèle extérieur, qui, je crois, enfin, dans le monde indien, dessine à l'avance un peu ce que sera la singularité du phénomène bouddhique.
Tout est dit. Sarva Muktam en sanskrit. Samapti.